tout de suite le journal. Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Pour la première fois de l'histoire moderne du Mexique, la gauche accède à la présidence. Large victoire hier d'Andrés Manuel López Obrador. Dans un pays aux inégalités tenaces, le Mexique, confronté à la corruption, à une vague de violence sans précédent. Quel changement le nouveau président peut-il apporter? Analyse à suivre depuis Mexico dans un instant.
Emmanuel Macron est attendu à Nouakchott, en Mauritanie, pour un déjeuner avec les chefs d'État de l'Union africaine, suivi d'une rencontre avec ses homologues du G5 Sahel. Un double échange consacré à la sécurité en Afrique après une série d'attentats au Mali.
À la une en France, le gouvernement appelle les fonctionnaires à passer d'une administration à l'autre. Inquiétude également des Français qui travaillent en Suisse. Les entreprises suisses vont désormais pouvoir privilégier l'embauche de travailleurs locaux. C'est ce qui s'appelle la préférence indigène. Il prend la tête d'un pays gangréné par la violence. Andrés Manuel López Obrador devrait très largement remporter l'élection présidentielle mexicaine. Il est crédité, selon de premières estimations, à 53% des voix. Et il écrase donc ses adversaires de droite, dont les formations politiques étaient au pouvoir au Mexique depuis 1910. C'est un jour historique, a lancé Andrés Manuel López Obrador, dont les initiales AMLO ont été scandées par ses partisans cette nuit dans les rues de Mexico, ville dont AMLO fut maire entre 2000 et 2005. Le vétéran de gauche, 64 ans, se présentait pour la troisième fois à la présidence. Cette fois-ci fut donc la bonne. Emmanuel Stils, vous êtes la correspondante de France Culture au Mexique. Bonjour.
Bonjour.
C'est donc une victoire historique de la gauche et de son héros AMLO au niveau national, mais aussi local.
Oui, une victoire historique pour la gauche mexicaine qui n'a pas gouverné depuis plusieurs décennies. C'est le triomphe de l'obstination politique de López Obrador pour la troisième fois candidat. Cette fois-ci, il a véritablement connecté avec les inquiétudes des Mexicains face à la corruption dévastatrice, à la violence record et aux inégalités tenaces. Alors au-delà du discours, il est parvenu à convaincre l'électorat qu'il était un politicien différent, qu'il se démarquait de la mafia du pouvoir, comme il a l'habitude de dire, parce que ce résultat reflète aussi le rejet envers le système qui a prédominé, envers une classe politique discréditée par la multiplication des affaires de corruption. Les candidats des deux grands partis qui ont toujours gouverné terminent loin derrière López Obrador. Ils l'ont d'ailleurs reconnu très tôt dans la soirée leur défaite.
Andrés Manuel López Obrador, qui doit être investi en décembre prochain à la présidence donc du Mexique, il a déjà promis de chasser, vous le disiez, la corruption du Mexique, de faire baisser la violence. Violence au cœur des débats pour cette présidentielle, à l'œuvre également sur le terrain avec 145 assassinats politiques dans ce qui reste la campagne la plus sanglante que le Mexique ait jamais connue, Emmanuel.
Oui, une campagne extrêmement violente qui est le reflet de la situation que traverse le pays. Alors la marge de manœuvre que peut avoir López Obrador dans ce domaine reste évidemment un mystère. On lui a reproché de ne pas avoir un plan d'action clair pour lutter contre la violence du crime organisé. Lui affirme qu'il veut combattre la pauvreté et la corruption qui sont d'après lui les deux grands moyens de venir à bout de la criminalité. Et puis le futur président a aussi mis sur la table un projet d'amnistie à l'égard des personnes impliquées dans le narcotrafic qui n'ont pas commis de crimes graves, ce qui serait une manière de tester de nouvelles solutions pour affronter le problème de la violence.
Emmanuel Stils, merci à Mexico pour France Culture. Andrés Manuel López Obrador, félicité cette nuit par Donald Trump, le président des États-Unis, s'est dit prêt à travailler avec le nouveau chef d'État mexicain. Donald Trump, dont la politique commerciale et migratoire a plus que tendu les relations avec le Mexique voisin. De son côté, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a fait lui valoir les bonnes relations commerciales qu'il entretenait avec le Mexique dans le cadre de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Nous sommes unis par des objectifs communs. Notre relation commerciale, mutuellement profitable, fait envie au reste du monde, a-t-il déclaré sur Twitter. Emmanuel Macron entame une visite de 3 jours en Afrique, invité aujourd'hui au sommet de l'Union africaine qui se tient en Mauritanie, au lendemain d'une attaque contre les soldats français qui a fait 4 blessés au sein de la force Barkhane, attentat qui a fait au total par ailleurs 4 morts et une vingtaine de blessés civils près de Gao dans le nord du Mali. Pour lutter contre le terrorisme dans la région, Emmanuel Macron profitera de sa visite aujourd'hui à Nouakchott pour faire le point sur la montée en puissance de la force conjointe G5 Sahel composée du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie. Cette force conjointe rencontre beaucoup de difficultés. Vendredi encore à Sévaré dans le centre du Mali, son QG a été la cible d'une attaque suicide qui a fait 3 morts, Franck Madvon.
Le président mauritanien Aziz admet qu'il y a encore énormément de failles dans la sécurité. La principale alliance djihadiste au Sahel l'a montré en lançant coup sur coup deux attaques au Mali, l'une vendredi contre la force G5 Sahel, l'autre contre les soldats français de Barkhane. De fait, la force conjointe du G5 mise sur pied l'an dernier est à peine opérationnelle. Elle doit faire travailler ensemble plus de 4000 hommes issus de 5 pays qui n'ont pas du tout les mêmes procédures et le même niveau de formation et d'équipement, avec parfois des éléments incontrôlables. Des soldats maliens ont ainsi tué 12 civils en mai. Autre obstacle, la répartition des tâches entre toutes les unités qui veillent à la sécurité au Sahel, les casques bleus, les Français de Barkhane et les armées nationales. Se pose enfin la question de l'argent. Une partie seulement des 420 millions d'euros nécessaires au fonctionnement de la force ont été récoltés. L'UE et l'Arabie Saoudite auraient fourni près de 200 millions. Des primes ont pu être versées aux officiers, mais les autres financements tardent à être débloqués.
Et au vu des difficultés rencontrées par la force conjointe du G5 Sahel qui peine à monter en puissance, le général Jean-Bernard Pinatel, spécialiste en géopolitique, estime lui que les opérations françaises sont loin d'être terminées dans le Sahel, infesté de groupes djihadistes.
La zone, c'est 3 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 6 fois la France. Donc comment voulez-vous, avec 4000 hommes, et même avec l'aide des pays du G5, contrôler complètement 6 fois la France? Donc c'est tout à fait impossible. Ce que l'on est capable de faire, c'est éviter qu'ils se regroupent, qu'ils prennent une ville ou un village pour constituer une base. Voilà. Et donc ça les maintient dans des groupes qui sont des groupes au maximum du niveau de la section de 25-30 hommes. Et donc avec cela, ils peuvent créer des actions terroristes, mais ils ne peuvent pas contrôler le pays et surtout le mettre à feu et à sang. Arriver au degré de sophistication et de valeur militaire qu'est l'armée française aujourd'hui, il faudra des années pour ces gens-là. On a besoin d'avions, on a besoin de forces spéciales, on a besoin d'énormément de capacités très sophistiquées, et autant vous pouvez donner des armes, des fusils et des mitrailleuses à ces forces, mais arriver à ce niveau de coordination entre le renseignement, l'action, l'action de l'artillerie, de l'aviation, des forces spéciales, etc., ça demande une grande sophistication et il faut énormément de temps pour amener une armée à ce niveau-là.
Le général Jean-Bernard Pinatel, joint par Maïwenn Bordron. Les discussions de la dernière chance aujourd'hui en Allemagne entre la chancelière Angela Merkel et l'aile la plus à droite de sa coalition gouvernementale. Discussion avec la CSU, dont le président Horst Seehofer a menacé hier de démissionner et de faire tomber le gouvernement avant de suspendre sa décision. Au centre du bras de fer, la politique de la chancelière à l'égard des demandeurs d'asile que le parti bavarois très conservateur CSU veut à tout prix durcir. Une vingtaine de jours après la poignée de main historique entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, une question: les Nord-Coréens sont-ils vraiment sur le point de démanteler leur arsenal nucléaire? Aux États-Unis, plusieurs médias affirment que le régime de Pyongyang continue de dissimuler ses activités nucléaires. L'administration américaine, elle, hésite entre prudence et confiance. Grégory Phillips.
Les services de renseignement américains ont, selon NBC et le Washington Post, acquis la certitude que Pyongyang a d'une part continué ces derniers mois sa production d'uranium enrichi, d'autre part pris des mesures pour dissimuler certains de ses sites nucléaires secrets et enfin a bien l'intention de conserver une partie de son arsenal nucléaire. Interrogé sur ces révélations, le conseiller à la sécurité John Bolton a dit que les États-Unis ne faisaient pas preuve de naïveté et qu'ils cherchaient à comprendre ce que la Corée du Nord était en train de faire. Sur Fox News, hier matin, Donald Trump, lui, a paru plus confiant. Oui, je pense qu'ils sont très sérieux, qu'ils veulent le faire. On a une très bonne alchimie. Je me suis très bien entendu avec le dirigeant Kim. On a passé un accord, on s'est serré la main. Je pense qu'il était sérieux. Maintenant, est-ce que ça peut échouer? Oui, c'est possible. Pour l'instant, les promesses de dénucléarisation ne reposent que sur la parole de Kim Jong-un, sur la poignée de main échangée avec Trump et sur une déclaration d'intention peu précise. Hier, sur la DMZ, les deux délégations américaines et nord-coréennes se sont retrouvées pour la première fois depuis le sommet de Singapour, et le secrétaire d'État Mike Pompeo doit se rendre à Pyongyang très prochainement, peut-être cette semaine, pour voir si les choses avancent réellement ou non.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture.
France Culture, il est 8h10, la suite de votre journal Catherine Dutu. Ce sont des fonctionnaires inquiets qui vont se rendre ce matin à leur ministère de tutelle.
Et lancement à 9h du quatrième chantier de la concertation sur la fonction publique avec le secrétaire d'État Olivier Dussopt, au menu des discussions notamment la mobilité des fonctionnaires que le gouvernement veut encourager pour mieux réaffecter les agents sur les secteurs les plus en demande. L'exécutif estime qu'aujourd'hui les fonctionnaires ne changent encore que trop rarement d'administration, Maxime Debs.
Un commissaire de police qui devient enseignant, ça arrive, mais ça ne court pas les rues, comme le dit à la FSU sa secrétaire générale, Bernadette Groison.
Il y a déjà la possibilité de pouvoir sortir de son emploi pour pouvoir arriver sur un autre. Et c'est quand même quelquefois un petit peu une course d'obstacles quoi, pour faire ça.
Peu de moyens de formation, une mauvaise communication sur les postes entre deux administrations. Dans la fonction publique, la mobilité avoisine aujourd'hui les 8%, le système est verrouillé. À l'UNSA, Luc Faré n'étant rien étonné, surtout si l'on intègre le critère financier.
En fonction des postes, vous avez des primes qui sont données. Ces primes peuvent être nulles à certains endroits. Par exemple, dans les métiers de l'enseignement, il n'y a pas de prime. Et puis, elles peuvent être très fortes. Dans d'autres métiers, elles peuvent aller jusqu'à 30 ou 40% de la rémunération.
Et Luc Faré de donner l'exemple de certains postes au ministère des Finances à Paris. Avant tout, les syndicats veulent obtenir de l'État une harmonisation de ce système de rémunération. Pas évident, surtout que les représentants des agents ne sont pas dupes. Plus que de mobilité en interne, ils s'attendent à un tout autre discours aujourd'hui de la part du gouvernement.
Jusqu'à présent, quand ils en parlent, c'est de la mobilité vers le privé. Ils ont un petit peu envie aussi d'essayer de jouer ça.
Les syndicats qui gardent en tête, bien sûr, les promesses faites par le candidat Macron. 120 000 fonctionnaires de moins sur le quinquennat. Ce n'est pas avec de la seule mobilité en interne qu'il y arrivera.
La Suisse serre la vis sur le travail frontalier. Les entreprises suisses vont désormais pouvoir privilégier l'embauche de travailleurs locaux dans un premier temps dans les secteurs où le chômage est supérieur à 8%, puis à partir de 5% dès 2020. C'est la préférence dite indigène, une mesure qui inquiète beaucoup en France. 172 000 personnes traversent chaque jour la frontière suisse pour travailler, près de la moitié rien qu'à Genève. Exemple, à quelques kilomètres de là, à Saint-Julien en Genevois, le reportage de notre correspondant en Suisse, Jérémy Lanche.
Il est presque 8h30 du matin, à 200 mètres de la douane. Plusieurs personnes font la queue devant l'agence Pôle emploi de Saint-Julien. La plupart cherchent un poste côté Suisse.
Je m'appelle Julie, j'ai 38 ans et je vis seule avec mes deux enfants. Dans cette région, tout est très cher. Et pour pouvoir se loger, manger, etc., on n'a pas vraiment le choix que de chercher du travail en Suisse. C'est pas une bonne nouvelle.
Même discours pour Janine, elle ne sait pas si elle va rester vivre dans la région.
Pour moi, mon avenir est menacé. Peut-être qu'on partira d'ici, parce que c'est vraiment trop cher ici. On ne peut pas vivre si on travaille en France, c'est pas possible.
Pour comprendre la nouvelle loi, il faut revenir en 2014. Les Suisses votent alors pour l'introduction de quotas de travailleurs étrangers. Avec la préférence indigène, Berne tente de ménager l'opinion publique sans trop se brouiller avec l'Union européenne. Antoine Veillard est le maire modem de Saint-Julien en Genevois.
C'est un moindre mal, c'est sûr, mais ça reste contraire aux accords de libre circulation. Et à un moment, la Suisse va devoir choisir, soit elle veut l'accès au marché européen, soit elle veut discriminer.
Le secrétariat suisse à l'économie assure que la préférence indigène ne discrimine pas les frontaliers. Ils peuvent toujours s'inscrire dans les offices régionaux de placement pour bénéficier des mêmes avantages que les chômeurs suisses.
Pour lutter contre la pollution lumineuse, les enseignes commerciales doivent désormais être éteintes la nuit, entre 1h et 6h du matin. Une réglementation et qui s'applique depuis hier partout en France. Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, promet de nouvelles mesures dans les mois à venir pour limiter les nuisances lumineuses qui ont des conséquences sur la biodiversité et sur la santé. Yann Gallic.
Cette réglementation était déjà en vigueur depuis 2012, mais elle ne s'appliquait qu'aux nouvelles enseignes et publicités lumineuses. Elle est désormais généralisée à toutes les installations existantes, explique Sylvie Rimbaud. C'est la déléguée générale du syndicat des professionnels de l'enseigne et de la signalétique.
Toutes les enseignes devront être éteintes la nuit, sauf celles dont l'activité s'exerce encore. Je pense à des bars de nuit, à des pharmacies. Toutes les activités exercées la nuit ont le droit d'avoir leurs enseignes allumées et elles doivent être éteintes 1 heure après la fermeture de l'activité en question.
Il s'agit donc de limiter les éclairages inutiles sur les façades, dans les vitrines, dans les bureaux pour faire des économies d'énergie. Mais pas seulement, la lumière artificielle a aussi des conséquences néfastes sur la santé et la biodiversité. Joël Adrien est neurobiologiste et spécialiste du sommeil.
Toutes les espèces, y compris l'homme, sont faites pour dormir à l'obscurité. Or, quand il y a de la lumière qui filtre à travers les fenêtres, la lumière de la ville, le sommeil est moins profond, moins récupérateur. À la longue, il y a des conséquences sur la santé. On a des risques d'hypertension, de troubles cardiovasculaires et puis aussi des risques de dépression.
Une pollution lumineuse accentuée par les écrans des smartphones, des tablettes et des ordinateurs qui s'immisce aujourd'hui jusque dans nos chambres.
L'hommage à Simone Veil se poursuit après son entrée au Panthéon hier, en même temps que son mari Antoine Veil. Après la cérémonie, le Panthéon ouvre exceptionnellement ses portes gratuitement pour que le public puisse à son tour venir se recueillir devant les cercueils. Simone Veil, cinquième femme à être inhumée au Panthéon, ancienne victime du nazisme, ministre d'État puis présidente du Parlement européen, elle repose désormais parmi les héros qui ont fait la France plus grande et plus forte, a déclaré hier Emmanuel Macron. Un mot du temps de ce lundi 2 juillet. Orageux à l'ouest avec 7 départements en vigilance orange, un temps très chaud à l'est avec le Rhône placé en alerte canicule. Les températures sont comprises ce matin entre 15 et 20 degrés. Cet après-midi, comptez de 24 à 29 à l'ouest du pays, 30 à 34 degrés en général sur la moitié est, 25 à 29 près de la Méditerranée.